Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francis Kermi, Abidjan, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Violence en Côte d'Ivoire, 7 morts et 44 blessés. Tel est le tout dernier bilan des affrontements intercommunautaires entre les autochtones Baoulé et les Dioula originaires du Nord, qui ont commencé mercredi à Béoumi, dans le centre du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP ce vendredi une source policière qui a tenu à garder l'anonymat. Jeudi, le préfet de la ville a fait état de 3 morts et 40 blessés et décrété un couvre-feu local de 18h temps universel à 6h du matin. À l'origine des accrochages, une altercation entre un chauffeur de taxi brousse et un conducteur de mototaxi à la gare routière qui a dégénéré en bataille rangée. Les transporteurs d'ethnie Dioula et les pilotes de mototaxi d'ethnie Baoulé se querellent depuis longtemps. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d'Ivoire. La tension reste vive ce vendredi à Béoumi. Au Mali voisin, 4 militaires maliens ont été tués jeudi par des djihadistes présumés. Les soldats sont tombés dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
L'attaque s'est produite vers la mi-journée dans le secteur de Diafarabé, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué la qualifiant d'embuscade. Au cours de cet accrochage, les FAMA, les forces armées maliennes, déplorent, vous l'avez souligné, 4 morts. Selon un élu de Diafarabé, ce sont des militaires en patrouille à 14 km de la ville qui se sont battus contre les djihadistes. Les assaillants ont emporté des armes lourdes, d'après cet élu. Depuis 2015, des violences sont en cours dans le nord et le centre du Mali, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaire, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Pour rappel, le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, dont l'application accumule les retards.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest, le G5 Sahel, organisation régionale anti-djihadiste, plaide pour la création d'une coalition internationale antiterroriste. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi à New York, consacré à la situation dans le Sahel, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, a affirmé que la lutte contre le terrorisme et la criminalité dans la sous-région est une responsabilité collective. Le chef de la diplomatie burkinabé a ajouté qu'il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale contre le terrorisme au Sahel. Yacouba Ouédraogo a joint Alpha Barry à New York.
Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai effectivement soutenu la création d'une coalition internationale. C'est face à l'ampleur de la menace qui aujourd'hui n'est plus seulement dans la partie nord du Mali ou dans la partie sahélienne du Burkina, mais qui est descendue vers le centre nord du Burkina, vers l'est du Burkina, mais également vers le centre du Mali. Et vous voyez également ce qui vient de se passer dans la partie ouest du Niger face à cette menace qui se propage, mais qui risque aussi de contaminer certains pays de la partie côtière de l'Afrique de l'Ouest. Nous appelons à des moyens plus accrus. C'est pourquoi nous parlons de coalition internationale, comme ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays.
Est-ce que véritablement vous vous sentez moins soutenu par rapport à la mobilisation de la communauté internationale en Irak et en Afghanistan?
Oui, mais bien entendu, nous avons tenu une table ronde, je peux dire, l'année dernière à Bruxelles, où il y a eu des engagements qui ont été pris. Ces engagements sont appréciables, mais jusque-là, la mise en œuvre est assez difficile. Nous avons besoin de financements prévisibles, nous avons besoin de financements pérennes qui puissent assurer donc une viabilité de la force conjointe sur un long terme. À défaut donc d'obtenir un mandat sous le chapitre 7 des Nations Unies, nous demandons qu'une coalition se forme, parce que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, c'est la sécurité de toute l'Afrique, c'est la sécurité sécurité de l'Europe et du monde entier.
On sait qu'il y a le G5 Sahel qui est en train de se mettre sur pied, il y a la MINUSMA au Mali, il y a les différentes forces armées nationales des pays qui composent le G5 Sahel. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la communauté internationale?
Le G5 est sur pied, mais n'est pas encore pleinement opérationnel. Le constat, c'est que la menace s'amplifie, la situation sécuritaire se dégrade. Nous pensons que les pays développés, notamment, doivent faire des efforts supplémentaires afin d'apporter un appui conséquent donc aux États du G5 Sahel qui font des efforts inestimables.
Alors, on sait que depuis un certain moment, le G5 Sahel mène cette campagne-là auprès de la communauté internationale. Est-ce que vous avez le sentiment, cette fois-ci, d'avoir été bien entendu et quelle serait la suite?
Nous avons été entendus, bien entendu, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Nous continuons la discussion et les échanges avec nos partenaires et avec tous ceux qui nous soutiennent. Nous continuons aussi à notre niveau à régler ce qui reste à régler. La situation est assez difficile. Nous avons besoin donc d'une volonté beaucoup plus affichée pour aider le Sahel.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, joint à New York.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, la Croix-Rouge internationale tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Le grave manque de financement pourrait l'obliger à réduire ses activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Un avertissement lancé alors que le nombre de cas de fièvre hémorragique monte en flèche. Bagassikora.
La situation est grave, a déclaré le directeur du département santé de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Emmanuel Capobianco, lors d'une conférence de presse à Genève. L'ampleur et la qualité des activités qui seront menées par les volontaires de la Croix-Rouge diminueront considérablement au cours des deux prochaines semaines, faute de financement supplémentaire, a-t-il dit. Depuis le début de l'épidémie en RDC, il y a eu près de 1150 décès, plus de 1700 cas confirmés et probables selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, mais 20% de ces cas ont été signalés au cours des trois dernières semaines seulement, a révélé Capobianco, qualifiant ce pic d'alarmant. Les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont reçu jusqu'à présent moins de la moitié des 31,5 millions de francs suisses, soit 28 millions d'euros demandés pour financer leurs activités.
Les suites du dossier Kevasingo au Gabon lié aux transactions sur ce bois précieux dont l'exploitation est interdite. Une semaine après la disparition de 353 conteneurs de Kevasingo du port de Libreville, l'instruction menée par les autorités judiciaires a scellé le sort de plusieurs hauts cadres de l'administration publique. Ils sont plus d'une dizaine à avoir été suspendus de leurs fonctions par le gouvernement gabonais. Les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Oumbian Nze.
13 hauts cadres de l'administration publique sont désormais sur la sellette au sujet du détournement des conteneurs du Kevasingo, une affaire qui choque encore l'opinion publique. Ils sont 7 du ministère des Eaux et Forêts, 6 autres du département de l'économie, tous suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire parce que selon les premiers éléments des investigations judiciaires, leur responsabilité semble avérée dans ce dossier confié au parquet de Libreville. Le communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement gabonais, Nanette Longa, dénonce sur base de la récente déclaration du procureur de la République des complicités actives et passives au niveau de la chaîne des responsabilités établie. Les membres du gouvernement qui s'étaient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent, conclut le communiqué. Signe annonciateur d'un prochain remaniement gouvernemental, rien n'est moins sûr, sauf qu'en revanche, les mesures de l'exécutif sont loin de convaincre les experts en conservation des ressources naturelles. Joint au téléphone par VOA Afrique, François Njimbi, militant écologiste, estime que les fonctionnaires incriminés servent, je le cite, de sacrifice expiatoire. Libreville, Ismaël Obionze, VOA Afrique.
Actualité américaine pour terminer. Le président Donald Trump a présenté hier une vaste réforme du système d'immigration illégale, d'immigration légale ici aux États-Unis. Un système destiné à sélectionner les étrangers sur la base de leurs mérites et non plus en raison de leurs liens familiaux. Irénée Armand-Numbo.
Notre plan va transformer le système américain de l'immigration en fierté pour la nation et sera admiré du monde entier, a assuré le président américain, dénonçant un système dysfonctionnel qui discrimine les génies et les esprits brillants. Selon lui, près de deux tiers des 1,1 million de permis de résident permanent, les fameuses cartes vertes distribuées chaque année par les États-Unis, vont à des immigrés simplement parce qu'ils ont un proche dans le pays et seulement 12% reviennent à des étrangers sélectionnés pour leur mérite mérite ou leurs compétences. Donald Trump a ainsi promis de faire passer cette proportion de 12% à 57%. Cela nous rendra plus compétitifs, a-t-il lancé.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.